Bon, alors j'ai maté Macron lundi
Le
soir.
salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100
Et moi, je
euros
m'attendais
par
à ce qu'il
mois,
annonce qu'il
sans
allait
qu'il en soit un
démissionner,
euro de plus pour l'employeur.
qu'il allait dissoudre l'Assemblée.
Nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année.
Truc de président, quoi.
Vive la République.
Mais non.
Vive la France.
Du coup, des trucs, mais rien de fou.
Vas-y, ils ont pas mis la Marseillaise.
Et là, mardi matin, dans la boîte aux lettres.
Oh là là, c'est la taxe d'habitation. Ça, mais Macron démission, quoi.
Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Et à tous les coups, je vais encore me prendre de la lacrymo.
Capital.fr, 10 décembre. Emmanuel Macron n'a finalement pas fait d'annonce sur la taxe d'habitation.
Alors moi, la taxe d'habitation, c'est pour la ville de Lyon.
J'ai voulu commencer ce journal quand même.
C'est pour Gérard.
C'était hier soir le coup d'envoi de la célèbre fête des Lumières de Lyon.
Alors oui, on a la fête des Lumières ici à Lyon. Le 8 décembre, c'est un peu comme notre nouvel an. En fait, ça vient d'une légende religieuse, mais qui est passée dans le folklore populaire. Et il y a une quinzaine d'années, Gérard Collomb a transformé ça en fête touristique et commerciale basée sur des sons et lumières géants.
C'était drôle quand il y avait les Esquimaux qui tenaient le camion de pompiers.
C'est waouh.
Le Progrès, 9 novembre. La ville de Lyon promet une programmation artistique riche et exigeante avec un budget de 2,6 millions d'euros.
Alors vu que c'est un peu mes sous, j'ai décidé d'y aller cette année.
Ok. Là, il est carrément gazé. Hein.
Le Progrès, 9 décembre. La soirée du 8 décembre a eu chaud.
Il gaze la grande roue.
Et toi, tu voulais faire des tours de grande
roue? Je me disais qu'on serait pas mal.
Ces spectateurs ont trouvé la bonne place pour admirer le tableau de Fourvière.
Il pleut des grenades en plein milieu de Lyon, sur la place Bellecour, quoi. Au milieu des touristes et des familles.
Avec une présence policière très discrète, cette fête des Lumières permet de s'évader.
Alors, voilà ce que raconte le Progrès par rapport à cet après-midi-là.
Des fauteurs de troupes se sont invités dans le rassemblement des Gilets jaunes vers 19h30 et ont caillassé les forces de l'ordre. Ces dernières ont répliqué en faisant usage de gaz lacrymogène à Bellecour dès 16h30.
Donc ça veut dire que les forces de l'ordre répliquent à 16h30 alors que les fauteurs de troubles arrivent à 19h30.
Non mais regardez ça, regardez ça.
Et moi j'étais sur place, c'est le journal dit vrai.
Gratuit, y a rien qui se passe.
Les forces de l'ordre ont bien répliqué 3 heures avant l'arrivée des fauteurs de troubles.
Les Gilets jaunes ou autres sont des casseurs, là clairement c'est parti des forces de l'ordre.
Vous-même vous n'êtes pas des casseurs.
Non.
Ça fait tellement de bien de voir ça à côté de l'actualité.
Dépêche.
Franceinter.fr. Un jeune homme a été amputé après qu'une grenade lui a explosé dans la main au cours de la manifestation des Gilets jaunes de Bordeaux. Le JDD. Dans la Manche, les Gilets jaunes ont récolté 842 euros pour le Téléthon. Le Parisien, 10 décembre. Un gilet jaune placé en garde à vue témoigne, c'est pire que la Corée du Nord. Libération, Julien Coupa placé en garde à vue.
Ah mais il existe vraiment Julien Coupa en fait? Je croyais que c'était inventé par les Russes ça.
Ils mettent des coups de bouclier, des coups de matraille. Je m'en suis mangé un dans l'épaule.
Le Monde, 8 décembre. Violence policière, des avocats portent plainte.
J'ai vu un jeune, il sortait de son collège, il avait rien à voir à la manifestation. Il habitait à Vénissieux, il mangeait un coup de flashball dans les yeux.
Le Monde, 8 décembre. À Mantes-la-Jolie, 153 jeunes ont été interpellés et une vidéo a provoqué de vives réactions.
On voit genre comme une classe, sur les genoux, main en l'air, derrière la tête et la tête droite. On voit des policiers autour, je sais pas combien.
Ouais, je vous préviens, la vidéo de Mantes-la-Jolie, faut s'accrocher.
Voilà une classe qui se tient sage.
Moi j'ai chialé.
Ils vont dire Guantanamo, comment ils font? Ils allaient les exécuter, frère.
Voilà.
C'était comme des chiens, il y en a autres contre le mur.
Commissariat de Mantes, bonjour.
Oui, je suis bien au commissariat de Mantes-la-Jolie.
Oui, bien sûr.
Oui, bonjour, j'aurais voulu parler au bureau de Boko Haram.
Boko Haram?
Ouais.
Attends, attention, s'il vous plaît.
Le JDD, 9 décembre, main sur la tête, des lycéens miment vendredi à Paris, ce qui s'est passé la veille à Mantes-la-Jolie.
Alors vous m'avez dit Boko Haram, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Il n'y a personne de ce nom ici.
C'est ceux qui ont fait la prise d'otage des lycéens.
Il n'y a pas de Boko Haram ici.
Libération, 7 décembre. Interpellation des lycéens à Mantes-la-Jolie.
Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes. Hein.
Vive indignation à gauche.
Savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir.
Merci, Ségolène Royal.
Et ben en fait, quand on voit ça, ben nous, ça nous est... on est en colère.
Libération, 4 décembre. Des gilets jaunes aux gilets jaunes.
C'est pas le mouvement des gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, c'est plus les adultes, ceux qui utilisent le carburant, alors que nous, c'est pour nos études et notre future vie dans le travail.
Rebellion.info, 9 décembre. Mobilisation massive dans les rues de Lyon avec plus de 3000 lycéens lycéennes.
Salut, excuse-moi, est-ce que tu peux me lire ce que t'as mis sur ta pancarte?
C'est marqué putain, c'est pour... C'est vulgaire et c'est l'objectif que les gens soient attirés par la pancarte et qu'après, je retourne la pancarte. C'est marqué... On a notre mot à dire, il s'agit de notre avenir.
Marketing.
Exactement.
Marketing.
C'est une technique de
communication.
Commerce.
Communication. Yes.
On a aussi le droit à un avenir, en fait.
Je trouve ça dégueulasse que bah, notre avenir soit soumis à un robot, car Parcoursup c'est juste un robot qui décide de tes choix et... Si déjà on laisse les robots faire maintenant, ça va être quoi plus tard ouais.
Le Parisien, 6 décembre, blocus lycéen, pourquoi une telle poussée de violence?
Enfin, l'État, il parle de violence et tout, mais s'il n'y a pas de violence, qui va voir des jeunes comme ça? Par exemple, si là on ferait pas de conneries, on jetterait pas des cailloux, on allumerait pas des poubelles, on casserait pas des vitres, il n'y aurait pas la police. Si les forces de l'ordre ne seraient pas mobilisées, on n'aurait pas cette visibilité. Les journalistes, ils se déplaceraient pas.
Le Figaro, 6 décembre, plus de 700 lycéens interpellés jeudi en France.
Les casseurs qui cassent des monuments, par exemple à l'Arc de Triomphe et tout. Ça, certes, c'est pas bien, je suis d'accord, c'est de grosses valeurs. Mais là, on s'en fout un peu de la valeur dans une crise comme ça. Et au moins, c'est un emblème, parce que ça touche la société.
Qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux, là? Vous êtes défoncé ou quoi?
Ah, c'est lacrymo. Malheureusement, ce n'est pas pour s'amuser, c'est de la lacrymo. Merci les CRS.
Même si on n'a rien fait.
On a entre 16 et 18 ans, merci. Vive la République, Macron, franchement. T'es un enculé de merde, sale bâtard de fils de pute.
Tiens, au fait, c'était le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Non, rien.
À la semaine prochaine pour la dépêche de Noël.
C'est quoi la musique du mouvement, là?
Là, c'est Elle et l'autre.
Joule?
Ouais, c'est Joule. Parce que Joule, il représente un peu la liberté, tout ça, quoi.
Il chante un peu.
Arte. Radio.
On va avoir du coup une personne de l'association Témoin qui va nous parler de la répression qui s'est abattue sur Lyon, on peut dire, samedi 8 décembre, et un peu comment comment la police et son maire et ses supérieurs hiérarchiques ont tout fait, mais absolument tout, quel qu'en soit le prix, pour que se passe cette fête des Lumières. Est-ce que tu nous entends déjà?
Oui, bonsoir.
Ouais, salut. Alors, est-ce que tu peux nous faire un peu un point sur les personnes blessées, sur la répression, enfin bref, sur ce qui s'est passé niveau maintien de l'ordre ce samedi 8 sur la presqu'île?
Ben oui, comme vous le disiez à Témoin, on a constaté la même chose, c'est-à-dire une volonté de l'État et des forces de police simplement de tout faire pour que le 8 décembre ait lieu, samedi 8 décembre, quel qu'en soit le prix de la répression, et ça voulait dire vraiment beaucoup, beaucoup de gaz lacrymo, beaucoup de charges, et en fait beaucoup de tabassage préventif, tout ça. Alors déjà place Raspail sur le côté Guillotière, ça a commencé avec beaucoup de gaz lacrymo, quelques personnes qui se sont fait tabasser pour ne pas qu'elles rejoignent la presqu'île. Et quand elles ont lâché cette place Raspail, les flics, ils se sont rabattus sur Bellecour. Et là, c'était des stratégies vraiment hallucinantes autour de 18h jusqu'à 19h, place Bellecour, en plein milieu du coup des touristes et compagnie, en fait, de vouloir dégager tout ce qui ressemblait de près, de loin à un ou une marcheuse climatique, à un ou une gilet jaune, et voilà, du coup, à grand renfort de gaz lacrymo sur la place Bellecour, à grand renfort de charges, et plein de gens qui se sont trouvés là, coincés au milieu, alors qu'ils n'avaient jamais été confrontés au gaz lacrymo et compagnie. C'est continué aussi place de la République, du coup, sur la presqu'île, là, on continue un petit peu la rue de la République. Et à un moment, les CRS n'ont rien trouvé de mieux que de charger des quatre coins de la place en même temps, au milieu des touristes. Personne n'a rien compris. Tout le monde s'est fait sévèrement matraquer. Voilà. Et ça, c'est cette stratégie-là, en fait, de terreur un peu vis-à-vis de tout ce qui bouge. Ça, c'était aussi une stratégie d'infliger des blessures, quoi. Et avec, on a eu des témoignages, des appels au secours de personnes qui, par exemple, sortent du métro place Bellecour et directement se prennent un flashball dans le front, je veux dire, lèvent la tête en sortant du métro, de la bouche de métro, et poum. Et pareil, nombreuses personnes qui sont fait sévèrement matraquer sur la presqu'île, et au moins environ une dizaine de personnes qui ont été prises en charge par la Croix-Rouge, en fait, qui était là pour le 8 décembre, justement. mais qui en fait a soigné beaucoup plus de personnes qui s'étaient fait matraquer par la police plutôt que de touristes qui font une crise d'angoisse à cause de la foule. Et au point que d'ailleurs la Croix-Rouge a transféré au moins 2 personnes à l'hôpital.
Ah oui, suite des 2 personnes qui ont été du coup qui ont été victimes de violences policières.
Ouais, 2 personnes victimes de violences policières qui ont été transférées à l'hôpital suite à leur passage à la tente de la Croix-Rouge sur la presqu'île. Et au niveau des blessés, ben nous on est au courant de au moins 1 blessé grave qui a été opéré dans la nuit de samedi à dimanche, avec plusieurs côtes cassées et le pont perforé derrière. Et cette personne, elle est toujours à l'hôpital alors qu'il est. Peut-être avec qui a été frappé un coup de botte, de matraque, de tonfa, quoi. Et aussi un coup de crosse. De la police ne font pas que des victimes en tirant leur projectile, mais aussi avec leur crosse. Oui.
Alors, est-ce que juste tu peux te rapprocher, je sais pas où t'es, mais d'une fenêtre, parce que ton téléphone commence à peiner un peu au niveau du réseau.
Ah.
Mais là, c'est bon, ça marche.
Après, il y a aussi des comparutions immédiates. C'était lundi. Vous m'entendez toujours ?
Ouais, ça y est, on t'entend. Du coup, des comparutions immédiates, 2 personnes qui se sont fait arrêter samedi 8.
Il y avait du monde aux comparutions lundi, au point que, exceptionnellement, ils ont ouvert 2 salles de comparutions immédiates en même temps pour passer plus vite les gens. Avec deux petits noms, quoi.
Est-ce que là on t'en... Ouais, voilà. Tu nous entends? Est-ce que tu peux te mettre là où tu étais au début? Parce que là on regalère bien sûr à t'entendre, c'est pas...
Okay. Il faut pas bouger quand tu parles à la radio.
Arrête de te déplacer comme ça. Sauf si tu as la police à tes trousses, mais sinon arrête de bouger.
Ah non, mais tu es un robot, là.
Ouais,
tu
sais, on t'entend plus du tout. Alors, moi, je peux... essaye de trouver une place où tu peux... où tu capterais un peu mieux, ou éventuellement de raccrocher et nous rappeler. Mais moi, je vais pouvoir continuer en attendant que qu'on trouve un moment pour plus entendre et comprendre ce que tu nous dis. Mais on va aller faire un tour du côté de Valence, et donc dans la Drôme, où il y a 4 gilets jaunes, dont une militante PCF, qui ont été placés en détention provisoire. Car elles sont suspectées d'avoir agressé le directeur départemental de la police, autrement appelé DDSP pour directeur départemental de la sécurité publique. En gros, c'est un peu le numéro 1 de la police au niveau du département. Alors, on pourrait presque après appeler cette action les gilets jaunes ont tapé dans le mille. Pour ce qu'il s'est passé, en gros, une zone commerciale est bloquée dans le nord de Valence. Les flics ont pour ordre de dégager les ronds-points. Après avoir fait les dernières sommations, les gilets jaunes commencent à s'équiper, d'après les flics, pour l'affrontement. Flics qui étaient équipés pour l'affrontement depuis peut-être même leur naissance, on ne sait pas. Bon, flics et gilets jaunes s'affrontent. Étant donné la répression du mouvement, il est quand même logique que certains et certaines s'équipent du côté des gilets jaunes à minima contre les gaz lacrymogènes. Comme ça chauffe, le DDSP enfile son brassard police, ni une ni deux, pour ne pas être confondu par ses collègues, par éventuellement un gilet jaune et se prendre des coups de latte. Ensuite, il voit un manifestant se barrer en courant et se prenant pour un cow-boy de la baraque, lui qui d'habitude n'est quand même plutôt qu'un gratte-papier, voire un... fréquenteur de salon, au dire de ses collègues, hein, presque, ceinture à un manifestant pour l'empêcher de se barrer. Bon, ce qui devait arriver arriva. Une dizaine de personnes présentes sur place lui tombent dessus et lui mettent une petite correction, hein, pour cette action un peu stupide de sa part. Suite à ça, 2 personnes ont été arrêtées sur place, puis 2 autres à un autre moment qui s'avère être pendant la marche pour le climat, puisqu'il semblerait qu'il ou elle ait été reconnu sur des vidéos. En tout cas, on imagine. Hein, voilà. Ils ont tous les quatre donc été placés en détention provisoire jusqu'à leur jugement qui aura lieu le 26 décembre. Et là, on appréciera moyennement le sadisme de la justice qui leur fait donc passer si leurs avocats ou avocates n'y arrivent pas. Mais en tout cas, leur fera passer Noël en détention. Voilà, pour une petite parenthèse sur la répression. Est-ce qu'on arrive à avoir notre ami ? Alors, eh ben non, eh ben toujours pas, ça peut être après. Eh ben, je vais finir avec ma petite brève sur les fabricants de gaz lacrymogène, puisque en lisant le journal de Internet, Street Press, pardon, on apprend que du côté des flics, avant la manifestation du 8, on flippait de tomber en panne sèche de lacrymo. Alors, en tout cas, il semblerait que cette crainte soit était sérieusement pensée par des syndicats de flics, en tout cas de CRS, puisque Street Press est allé leur poser la question. Bien sûr, ils ont témoigné sous couvert de l'anonymat, et en tout cas un syndicaliste de CRS a trouvé que l'hypothèse était plutôt plausible au vu de ce qui s'était passé le 1er décembre à Paris, et que en tout cas ponctuellement il y avait quand même des unités qui s'étaient retrouvées en rupture hein, momentanée de stock. Voilà, ce à quoi le ministère a aussi, de l'Intérieur a aussi été interrogé par Street Press. Il a répondu, afin de rassurer la population, je cite: après rebouclage, aucune alerte sur un problème de stock, des compléments ont été opérés cette semaine. Donc comprenez par ça qu'il y a bien eu des problèmes de stock, mais que nous les avons re-remplis.
Donc nous sommes en ligne avec Lucas de Témoins, de l'association Témoins. Donc tu nous as parlé du dispositif policier mis en place samedi à Lyon et qui a l'image de pas mal d'autres villes dans sa grandeur. Et tu commençais à nous parler des différentes comparutions immédiates qui ont eu lieu à partir de lundi. Et tu nous disais que là, il y a eu deux salles qui ont été ouvertes de comparution immédiate. C'est quand même un dispositif qui n'est pas commun.
Oui, effectivement, il y avait donc deux salles. Il y avait tous les prévenus qui ont été arrêtés hors des manifs qui sont passés, et aussi cinq prévenus qui sont passés devant le juge suite aux manifs. Parmi eux, il y avait deux identitaires, parce qu'il n'y avait quand même pas que des personnes de gauche dans cette manif, et ça se voyait dans le box des accusés, ça se voyait aussi un petit peu dans la salle. Il y avait quelques identitaires qui sont venus soutenir leur petit copain de facho, et il y en a un notamment, il s'est pris que 70 heures de tige. Bon, c'est pas énorme. En même temps, s'est pointé à la manif, c'était pour avoir deux gants, une cagoule et 16 pistes de gros calibre, quoi. Et un autre identitaire, lui, il a demandé un report de son procès. Il était là pour avoir jeté aussi des bouteilles de verre sur la police.
Et
ces deux identitaires, et juste une petite remarque comme ça, ils étaient vraiment dans le box des accusés. Au moins, il y en a certains qui ne se font pas tabasser en garde à vue, ça, on en est sûr. Et sinon, il y avait aussi trois camarades qui ont été arrêtés, qui étaient eux plus de tendance de gauche, quoi, on peut dire. Et parmi eux, il y en a deux, ben, leur procès a été reporté pour janvier. Et il y en a un autre qui a été condamné à 105 heures de tige pour avoir jeté une canette sur la police pendant les manifs. Voilà. Et du coup, ce qui montre un petit peu que voilà, il n'y a pas eu de peine de prison, même pas avec sursis, qui ont été prononcées, en fait. Et il y a eu surtout, comme si les juges avaient un peu la main légère, mais par contre, c'était les flics qui avaient la main lourde sur leur matraque.
Donc tu veux dire la main légère par rapport à d'autres fois ? Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en tant que militant ?
Comment ?
Tu dis la main légère, mais c'est toujours une main légère par rapport à d'habitude dans d'autres contextes de manif où il n'y a que l'extrême gauche ou s'il s'agit de lycéens.
Oui, oui, quand on dit une main légère, bon, c'est toujours par rapport à autre chose, par rapport à comment ça se passe habituellement à Lyon, et aussi par rapport à comment ça se passe sur ce mouvement-là, dans tout le reste de la France, où notamment pour sur Valence, il y a 4 personnes qui sont en détention préventive pour des faits de pendant les manifs. Voilà, et je voulais juste terminer sur le fait que ben il n'y a pas que les gilets jaunes qui sont dans la rue en ce moment, il y a aussi les lycéens. Et les lycéens, ils prennent une très grosse répression dans la rue, ils prennent aussi une grosse répression à Lyon dans les tribunaux. Et en ce moment, la police travaille, et notamment, elle va chercher les lycéens qu'elle a repérés la semaine dernière en manif, et cette semaine, elle va les chercher chez eux. Alors, c'est pour lancer un petit appel au fait d'être prudent, simplement, si vous avez participé aux manifs de la semaine dernière, d'être prudent, de pas forcément garder chez soi les vêtements que vous portiez en manif. Et puis, en tout cas, en garde à vue, ça ne sert à rien de parler, ça ne sert à rien d'avouer. S'il y a quelque chose à avouer, il sera bien le temps d'avouer devant le juge. Mais en attendant, voilà quoi.
Donc, pour dire que
la répression contre les lycéens, elle continue et que ça vaut encore le coup de prendre des précautions suite aux manifs de la semaine dernière.
En tout cas, ce truc de rien dire en garde à vue, c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose d'évident à poser, mais c'est aussi quelque chose qui est régulièrement conseillé par les avocats ou avocates qui interviennent ou qui ont l'habitude d'intervenir sur les gardes à vue, en tout cas en pénal. Parce que effectivement, pour eux, il vaut mieux ne rien dire, même de leur point de vue. C'est-à-dire, parce que après, en fait, une fois qu'on dit un truc en garde à vue, bah en fait, ça va être très compliqué pour l'avocat ou l'avocate derrière de dire, bah en fait, non, là, il a dit ça, mais ou voilà, c'était pas vraiment ce qu'il voulait dire et tout. Alors qu'en fait, si on dit rien, bah oui, ça pose un truc, mais au moins, ça permet par la suite de pouvoir construire une défense sur quelque chose d'un peu plus vierge que quand il y a des conneries ou des trucs qu'on a dit qu'on voulait pas vraiment dire, quoi. Voilà.
Ouais, bien sûr, et même si de fait souvent c'est vraiment pas facile de garder le silence en garde à vue, parce que la police en face, ils sont capables de mettre la pression sévèrement et violemment parfois, du coup effectivement
mais ça vaut quand même le coup de
on puisse faire en garde à vue, mais le plus possible c'est mieux d'exercer son droit au silence et de pouvoir construire une défense par la suite.
C'est ça, parce que ça vaut le coup de préciser, mais on a le droit de rien dire. C'est quelque chose qui est possible.
Tout à fait.
Et je voulais revenir avant que tu t'en ailles à tes activités. J'avais une dernière question par rapport au comparution immédiate. Le fait que tu dis qu'il y a eu des identitaires, du coup, ça veut dire des gens d'extrême droite.
Je vous entends pas du tout.
Ah oui. Donc tu disais qu'il y avait lundi en comparution immédiate des identitaires qui ont comparu. Et il y a eu aussi des personnes d'extrême gauche. Et du coup, je me demandais si sur les manières de plaider des avocats et par rapport et si le juge traitait cette question-là et prenait en considération le fait que ça soit des personnes de différentes obédiences politiques.
En fait, les identitaires qui passaient se défendaient d'être identitaires eux-mêmes. Alors, de fait, ils ont été un petit peu titillés par les juges et les procureurs sur le fait qu'ils n'admettaient pas pourquoi ils étaient là, alors qu'il y en a, celui qui s'est fait juger s'est fait arrêter quand même au milieu d'un groupe de 10 personnes notoirement connues comme identitaires à Lyon. Et du coup, là-dessus, il s'est fait un petit peu pousser par les procureurs. Mais sinon, les autres, les plaidoiries des avocats étaient exactement les mêmes. De toute façon, personne ne revendiquait quoi que ce soit au nom d'actions politiques pendant leur défense. Alors au final, le traitement a été le même devant le juge, on pourrait dire, ce qui n'a apparemment pas du tout été le cas par contre en garde à vue, quoi, et ni pendant les arrestations.
D'accord. Eh ben merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous répondre.
Ouais, ben merci à vous et bonne écoute sur Radio Canu.
Et donc, ben oui, parlons des lycéens. Depuis le 30 novembre, de très nombreux lycéennes et étudiantes se sont mobilisées dans l'académie. Dès le lundi 3 décembre, plusieurs lycées de Lyon, de Vaud, de Bron, de Villeurbanne ont été bloqués. Le mouvement regroupé derrière le mot d'ordre Revanche lycéenne a donc bien démarré, et aux abords des lycées la semaine dernière a été rythmé par des blocages, des barricades enflammées, des affrontements avec les flics, et malgré une répression donc très violente, parce que ça fait plusieurs années où dès que les lycéens se bougent, bah ils s'en prennent vraiment vraiment plein la gueule, à croire que ils s'en souviendront pas adultes. Moi, je trouve ça toujours étonnant à quel point les lycéens, ils sont vraiment ultra maltraités par le gouvernement, alors que c'est leurs futurs électeurs. Je dis ça, c'est sûrement débile. Donc, plusieurs arrestations chaque jour, des coups de matraque et des tirs de flashball. Et pour autant, bah, la détermination des lycéennes n'a pas trop faibli. Et malheureusement, comme d'habitude, on peut constater que les lycéennes habitantes de quartiers populaires sont particulièrement plus réprimées. Et donc, les revendications lycéennes sont claires. Pas de parcours sup, pas de réforme du bac, pas de réforme des lycées professionnels, pas de SNU, une variante du service militaire obligatoire et d'une durée d'un mois, pour ce qui est des exigences corporatistes. Pour le reste, la chute du gouvernement reste un horizon désirable pour beaucoup d'entre eux et elles. Donc, lycées généraux et lycées professionnels avancent ensemble dans ces revendications. Et si les syndicats lycéens restent particulièrement visibles, surtout dans le champ médiatique, la base lycéenne semble bouillonnante et difficilement récupérable. Donc, appel à manifestation demain, jeudi 13 novembre à 9h30, place Jean Massé, et l'intersyndicale CGT Sud CNT appelle à soutenir en se mettant en grève aussi demain, jeudi 13 décembre, et à venir à la manif à 9h30.
Et si vous voulez avoir un petit bilan pas du tout exhaustif, mais qui a le mérite d'exister, de la répression du mouvement social lycéen, il y a un excellent article sur le journal Bastamag qui se nomme « Une répression massive à coups de flashball provoque des blessés graves chez les lycéens et lycéennes ». Voilà, on y voit des témoignages et des vidéos assez accablantes où des jeunes se retrouvent par terre après avoir essayé de prendre un tir de flashball en pleine tête. Voilà, c'est ça, on parle quand même de gamins qui ont entre 16 et 18 ans.
Et pour conclure ce point répression, nous allons écouter la chanson du même nom de Colette Mani.
Répression. national ou international. Faut pas vendre des journaux, encombrer les marchés, faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Questions posées par leur canard préféré. Salut les cops, hein. Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux? Bla 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 bla. Vite, la masturbation rend fou. Oh, vrai ou faux?
Décembre, le syndicat du nettoyage région parisienne et la section Le Nettoyage Intégral Rénové a occupé le siège des résidences Mille et Une Vie Habitat. Avec un nom comme ça, on s'imagine que c'est un peu le paradis, vous voyez. Siège de la, qui se situe à Pantin dans le 93, en vue de la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier qui y sont employés et qui sont employés par cette boîte de nettoyage qui en profite pour surexploiter ces travailleuses. Mille et une vie Habitat confie le nettoyage de ses résidences à la société Le Nettoyage Intégral Rénové. Voilà, donc en général c'est toujours un peu comme ça que ça se passe, hein, dans, dans l'emploi de personnel sans papier. C'est en général, si jamais la personne directement, c'est la personne qui en fait c'est l'autre personne qu'on a employée et qui elle-même va dire mais en fait moi j'avais confié ça à telle personne qui elle, bon voilà, vous savez, au final tout le monde le sait parce que soit par soit parce qu'il ferme les yeux, soit parce qu'il veut pas en entendre parler, soit parce qu'il le sait puis que ça l'arrange bien, soit parce qu'en fait juste c'est des personnes qui tirent au maximum des devis pas chers et du coup bah voilà, voilà ce qui se passe quand, bref, vous voyez la chaîne. Ces derniers, donc la société Nettoyage Intégral Rénové emploie donc des travailleurs sans autorisation de travail et refuse de favoriser leur régularisation dans le cadre des procédures mises en place par le gouvernement, comme la régularisation par le travail. Certains de ces salariés n'ont ni contrat de travail ni bulletin de salaire, ce qui complique leur défense par les gens qui s'en occupent. Les courriers des syndicats sont donc restés sans réponse. Ils et elles exigent que la société Mille et Une Vie Habitat s'engage sur la régularisation par son sous-traitant pour que tous les salariés sans papier puissent être régularisés. Donc voilà, c'est ce qui est plutôt vraiment malin de la part des syndicats et des personnels employés. C'est aussi de s'attaquer aux gens qui embauchent des sous-traitants. C'est-à-dire que c'est aussi, c'est pas, donc certes le sous-traitant est en première ligne et responsable, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Mille et Une Vie Habitat qui va pas chercher non plus très loin pour savoir dans quelles conditions sont embauchés les gens, quoi.
Il faut que ça se sache.
Et tant qu'on est dans cette mini rubrique, faut que ça sache, un tout petit clin d'œil, hein, sur un article que j'ai vu sur Rue 89 Lyon. Mais il y a quand même un juge administratif qui sévissait sur Lyon. Donc un magistrat qui balançait des tweets sous couvert d'anonymat sur Twitter. Il s'appelle donc Philippe Sauvanet. Et on est heureux et heureuse qu'il ait remis sa démission, parce que ses tweets comprenaient des phrases telles que « Je vire tout ce qui est tchétchène, corps préfectoral, aujourd'hui magistrat, hashtag Macron. » Bon bref, on s'en fout.
Tu veux dire, c'était un gros raciste.
C'était un gros, gros facho, quoi. En gros, il quand même, dans ses tweets, il disait, c'était un peu un admirateur de Trump, Orban, Salvini, Bolsonaro, voilà. Donc voilà, à chaque fois qu'il tweetait des trucs, il disait que, voilà, il voulait... Il disait, moi je m'occupe des autres KTF, et avec moi ça dégage FISA, ou bien 90% des députés déboutés du 3 Adil nous en gorge inutilement. Il parlait de bandes ethniques qui pillent le centre-ville de Lyon. Voilà, tout ça, on va arrêter là. C'est dégueu.
Bon débarras, alors.
Mais bon débarras à lui. Il s'est fait démasquer. Ses hiérarchies à Paris et à Lyon l'ont convoqué. Il a donc remis de manière plutôt minable ses démissions.
En gros, il a été viré.
En gros, il a été
bon
viré.
Bon débarras.
C'est ça.
Ciao.
Il faut que ça se sache.
Eh ben, on va reparler de Marseille et pour des logements dignes. On en a parlé il y a 2 semaines, et puis il y a 3 semaines, et puis il y a 1 mois, et puis là on revient dessus. Donc le premier conseil municipal après la catastrophe de la rue d'Aubagne, donc le 5 novembre dernier, devait s'ouvrir lundi 10 décembre, par un moment de recueillement des élus, très hypocrite, mais bon. Voilà, et un débat qui s'annonçait tendu sur la question de l'habitat indigne et le vote de plusieurs délibérations d'urgence concernant l'aide aux sinistrés. Et bizarrement, il a été annulé. C'est bizarre. Bon, je remets dans le contexte. Donc, il y a eu le collectif du 5 novembre, qui est le collectif qui s'est monté suite donc à la catastrophe de la rue d'Aubagne. Donc, c'est le collectif qui accompagne les sinistrés. Du collectif contre le partenariat public-privé des écoles et gigantesque projet de reconstruction à 1 milliard d'euros. De l'Assemblée de la Peine, des opposés au réaménagement de la plus grande place de la ville, dont on a parlé aussi, et plusieurs centaines de Marseillais qui avaient prévu de se rendre en cortège à la mairie lundi pour le conseil municipal. Et moins de 24 heures avant la tenue du conseil, donc Jean-Claude Gaudin, qui est le maire, a annoncé son report par un communiqué de presse. Et il y a mis en avant les circonstances nationales, donc tout ce qui s'était passé le samedi avant, toutes les violences dans la rue, vous pouvez imaginer. J'ai décidé de ne pas vous en lire des extraits, tellement c'était pourri, voilà. Oui, bon ben voilà, il a annulé, ce qu'il a bien arrangé, puisqu'il n'a pas envie de régler en vrai cette situation. Ça l'arrange de pouvoir expulser plein de pauvres de leur logement. Donc le collectif du 5 novembre, lui, a décidé de maintenir son appel à manifester. Et certains ont porté 8 cercueils factices, puisqu'il s'avère qu'il y a eu 8 personnes qui sont mortes suite à l'effondrement de l'immeuble. Et je vais vous lire un bout de leur déclaration. Là où ce conseil municipal aurait dû permettre de prendre des mesures fortes concernant la gestion de l'urgence, comme la résorption de l'habitat indigne, Jean-Claude Gaudin décide donc de reporter au calende grec la protection de ses administrés, pour qui les soi-disant débordements liés aux manifestations pour le logement sont la conséquence de ce mépris social et politique, de l'absence de décision claire des pouvoirs publics, auxquels s'ajoute la répression policière démesurée. Eh ben oui. Et donc, samedi 8 décembre, puisqu'on parle de répression, je reviens là-dessus, hein, c'est un peu le thème de ce qu'est Nuit Info, comme dans la plupart des grandes villes, des manifs contre la vie chère et pour Marseille aussi, pour des logements dignes, a rassemblé un grand nombre de personnes. Plus de 10 000 et aussi en fait ce qu'il y a à dire sur Marseille là, c'est qu'il y a eu la manif de samedi, mais il y a eu plein d'autres manifs avant qui n'étaient pas reliés directement au mouvement des gilets jaunes, et c'est près de 10 000 personnes qui ont défilé sur plusieurs semaines, donc depuis un mois, pour protester. Il y avait eu la marche blanche, il y avait eu la marche de la colère pour protester contre l'habitat indigne au cri de Godin démission. Et il démissionne pas, même il décide de faire qu'il n'y ait pas de conseil municipal. Du coup, il s'octroie des droits tels d'une sorte de mafieux quand même, un peu, mais bon. Et aussi, ce qui a rappelé là, le petit truc de samedi dans la manif, c'est que le maire du premier, la mairie du premier secteur, où se situe la rue d'Aubagne, et le siège de la Soleam, qui est responsable donc de l'effondrement, l'agence d'aménagement de la municipalité chargée de la réhabilitation du quartier de Noailles, ont été saccagés pendant la manif. Donc ça, c'est le petit truc qui fait chaud au cœur. Et aussi, ce week-end, il y a l'Hôtel des Luttes, c'est un très joli nom, qui a été ouvert. C'est l'ancien espace culture qui a été occupé ce week-end pour lutter contre le mal logement et reloger les sinistrés de Marseille. Et ce qu'on avait déjà parlé il y a deux semaines, c'est le fait que ben, les gens sont rendus à aller dans des hôtels où ils ne peuvent pas cuisiner facilement, ils ne savent pas pour combien de temps. Et pour l'instant, il n'y a pas d'issue de relogement acceptable qui a été proposée par la mairie. Il y a de quoi être sérieusement en colère, quoi. Et malheureusement, cet hôtel des luttes a été évacué par la police hier, donc le mardi 11 décembre. Et cette action a été menée par des militants venus de différents groupes, donc le collectif du 5 novembre, mais aussi El Manba, l'Assemblée de la Plaine, les Gilets jaunes Centre-Ville Marseille. Et, par, et surtout par des habitants récemment expulsés des cités Corot et du quartier de Noailles, puisqu'ils en profitent pour évacuer beaucoup d'immeubles en mettant mise en péril sur les immeubles. Et donc à travers cette réquisition, ces militants et habitantes entendaient dénoncer et lutter contre le mal logement à Marseille, la spéculation immobilière, la gentrification, bon, gentrification on peut dire l'embourgeoisement, hein, c'est plus simple, les expulsions locatives récentes sans perspective de relogement et la vie chère. Et ce vaste bâtiment est inoccupé depuis la fermeture de l'espace culturel en 2016. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il est vide. Donc pourquoi ne pas laisser des gens qui n'ont pas de logement maintenant? Ils les ont de nouveau expulsés, donc les gens sont de nouveau à la rue, alors qu'ils avaient trouvé une solution, puisque cet espace va rester vide, puisqu'ils ont été expulsés. Mais la municipalité préfère dépenser de l'argent public dans la réhabilitation d'une place, donc ça on en a déjà parlé, pour 20 millions d'euros. Mais aussi, ce qui vient de sortir en ce début de semaine, 1,8 million d'euros destinés... T'as une idée
Non.
La rénovation des vestiaires du Cercle des nageurs de Marseille.
Et c'est important.
Eh ben oui, c'est important de nager, mais quand on n'a pas de logement et qu'on s'est fait virer de chez soi, c'est plus important de se loger. Et voilà. Et aussi, on oublie de mentionner les chiffres, mais je trouve que c'est toujours très important de dire que l'intervention de centaines de policiers pour expulser des personnes, ça coûte très cher aussi. Les 89 000 flics de samedi, ça a coûté de l'argent public. Je suis désolée. Voilà, bon, affaire à suivre pour Marseille, on vous tiendra au courant. Et puis bon courage pour la lutte là-bas, on pense très fort à vous.
Eh bien, il est 19h51, ce Canu Info touche à sa fin. On peut rappeler quoi dans l'agenda? Que demain, 9h30, mettez vos réveils pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Mais il y a un départ de manif lycéen et lycéenne à Jean Massé. Et quand on dit manif lycéen et lycéenne, bien entendu que tout le monde est le ou la bienvenue. Que c'est évident que même si vous avez passé l'âge d'être au lycée, ou même si vous êtes fait renvoyer, juste surtout si vous vous êtes fait renvoyer, allez à cette manif et c'est important d'être nombreux et nombreuses à être là-bas.
Et ben bonne soirée à vous.
Merci de nous avoir écoutés.
Et à la semaine prochaine.